Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir le monde, aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique, en direct du Studio 13 à Washington, édition du 7 juillet 2014, en votre compagnie Nathalie Barge
et Chérubin Lorsine.
Au sommaire ce soir, des dizaines de femmes enlevées par Boko Haram ont réussi à s'échapper.
En République centrafricaine, les leaders religieux s'opposent à la tenue à Brazzaville d'un forum sur la crise.
Si nous centrafricains, nous n'arrivons pas à nous unir, et les gens vont mettre en exécution leur agenda caché.
On écoutera l'imam Omar Kobine Layama.
Le Sénégal a un nouveau gouvernement dirigé par Mohamed Ben Abdallah Dion, un proche du président Macky Sall.
Quand on a entendu quand même le PM parler hier, on s'est dit que voilà un technocrate, quelqu'un qui va se pencher sur les problèmes des Sénégalais.
En Irak, la formation d'un gouvernement toujours dans l'impasse.
Et dans notre segment spécial sur la Coupe du Monde, un carré d'as regroupant les cadors du sport au niveau mondial. Le premier duel, c'est demain entre l'Allemagne et le Brésil, suivi mercredi du match Argentine-Pays-Bas. Mais d'abord le journal.
Nous ouvrons au Nigeria où plus de 60 femmes et jeunes filles ont réussi à s'échapper des mains de leurs ravisseurs. Leur enlèvement, il y a deux semaines, avait été attribué aux islamistes de Boko Haram. Jean-Roger Bion.
Selon un membre des groupes d'autodéfense, les prisonniers ont fui vendredi après le départ des islamistes de leur camp pour attaquer une caserne militaire et une brigade de police dans la ville de Damboa. Leur fuite a été confirmée par une source sécuritaire à Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno. La moitié des femmes ont pu regagner leur foyer, tandis que les autres étaient sous la protection de soldats dans la ville de Goulak. Ces femmes et jeunes filles ont été enlevées le 18 juin lors d'une attaque perpétrée par Boko Haram dans le village de Koumabadza, au nord de l'État de Borno. L'attaque avait fait 30 morts et le village a été brûlé et rasé. Boko Haram retient toujours en captivité plus de 200 lycéennes enlevées en avril dans la ville de Chibok.
Au Kenya, l'opposition manifeste à Nairobi en plein regain de tensions dans le pays après la mort de 22 personnes dans de nouvelles attaques près de la côte. Des précisions avec Michel Joseph.
La manifestation sous haute surveillance a eu lieu à Nairobi. Plusieurs milliers d'opposants sont sortis pour dénoncer l'insécurité, la corruption et les nominations sur des bases ethniques. Le chef de l'opposition, Raila Odinga, avait appelé ses partisans à le rejoindre au parc Uhuru, au cœur de la capitale. Certains manifestants ont jeté des pierres et les forces de sécurité ont usé brièvement de gaz lacrymogène pour les disperser. La manifestation a une forte charge symbolique. Elle avait comme cri de ralliement « Saba Saba », qui signifie en swahili « 7 sur 7 », car le 7 juillet, dans les années 90, l'opposition organisait des marches contre le régime de Daniel Arap Moi pour réclamer le multipartisme.
En Centrafrique, la plateforme religieuse s'oppose à la tenue du prochain forum sur la crise à Brazzaville et propose que cette réunion se tienne de préférence à Bangui. Par ailleurs, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a entamé une visite de deux jours dans le pays. Le point avec Idriss Fall.
La plateforme religieuse, pilotée par les trois principaux leaders religieux du pays, souhaite que ce forum se tienne à Bangui et non à Brazzaville. L'heure est grave et le temps n'est plus à la division, selon Imam Kobine Layama, président de la Conférence islamique centrafricaine.
Vous savez, quand on fait ces tournées, nous arrivons aussi à savoir qu'il y a des agendas cachés des uns et des autres. Si nous, centrafricains, nous n'arrivons pas à nous unir, et les gens vont mettre en exécution leur agenda caché. Parce que quand on nous présente des choses de l'extérieur, des solutions de l'extérieur, il y a toujours des en-dessous.
Les partis politiques ont été sur la même longueur d'onde pour dire que la solution au problème centrafricain est à trouver sur le sol centrafricain. Plusieurs leaders politiques considèrent comme une humiliation les précédentes rencontres de N'Djamena et de Libreville. Par ailleurs, Jean-Yves Le Drian a entamé aujourd'hui une visite de 48 heures dans le pays. À Bangui, le ministre français de la Défense s'est entretenu avec le commandant des forces françaises, le général Éric Bello des Minières, et la présidente de la transition, Catherine Samba Panza. Jean-Yves Le Drian doit se rendre demain à Bambari pour rencontrer les soldats français de l'opération Sangaris.
Trois ex-miliciens congolais ayant témoigné en 2011 devant la Cour pénale internationale et qui avaient demandé l'asile aux Pays-Bas sont arrivés à Kinshasa après avoir été expulsés, indique l'AFP. Arrivé la nuit dernière à bord d'un vol spécial, Floribert Ndjabou, Pierre-Célestin Bondina et Manda Sharif ont été conduits dans une prison militaire. Craignant pour leur sécurité, ils étaient les premiers témoins de la CPI à avoir demandé l'asile aux Pays-Bas. Ils avaient incriminé le président Kabila et refusaient d'être renvoyé en RDC. Mais le mois dernier, le Conseil d'État néerlandais a estimé qu'ils bénéficieraient de suffisamment de garanties pour leur sécurité.
Inondations dans certains quartiers de Lomé, la capitale du Togo. Près de 3000 personnes sont sinistrées. La plupart ont dû quitter leurs habitations et sont maintenant logées dans un centre d'accueil construit pour héberger les victimes de catastrophes naturelles. Selon la ministre de l'Action sociale, 30 millions de francs CFA ont été dégagés pour leur venir en aide.
Le Sénégal s'est doté hier soir d'un nouveau Premier ministre, Mohamed Dione, qui a aussitôt dévoilé son gouvernement. Très proche du président Macky Sall, il succède à Aminata Touré, limogé vendredi à l'issue des élections locales marquées par sa défaite à Dakar. Selon les décrets publiés par la présidence, la nouvelle équipe compte 30 ministres, 3 ministres délégués et 5 secrétaires d'État. Plusieurs ministres ont été reconduits, comme Abdoulaye Daouda Diallo à l'intérieur, Sidiki Kaba à la justice, Augustin Tine à la défense et Mankeur Ndiaye aux affaires étrangères. Nous aurons plus de détails tout à l'heure avec notre correspondante à Dakar.
Ebola en Afrique de l'Ouest. Au Ghana, un Américain a été mis en quarantaine à la clinique Niaho dans la capitale Accra, alors que des tests sont en cours dans un institut médical, a déclaré ce week-end le ministère de la Santé. Le patient a récemment visité la Guinée et la Sierra Leone, deux pays touchés par la fièvre. Dans un communiqué, le ministère a souligné avoir pris des mesures de précaution pour éviter toute propagation, si virus il y a, et a exhorté le public à ne pas paniquer car la situation est sous contrôle. Les ministres ouest-africains se sont réunis à Accra la semaine dernière pour discuter de l'épidémie d'Ebola qui a fait 481 morts en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone.
Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi aurait souhaité que les trois journalistes d'Al Jazeera, condamnés le mois dernier pour soutien aux frères musulmans, soient expulsés après leur arrestation plutôt que jugés. Le journal Al-Masri Al-Youm a cité M. Sissi ce lundi, disant à des journalistes égyptiens que le verdict du 23 juin a eu un effet très négatif. Un tribunal du Caire a condamné l'Australien Peter Greist, le Canadien d'origine égyptienne Mohamed Fahmy et l'Égyptien Mohamed Baer à 7 ans de prison, s'attirant les critiques de plusieurs gouvernements et d'organisations de défense de la liberté de la presse. Le frère de Greist a déclaré aujourd'hui que les commentaires du président étaient encourageants, mais qu'il n'était pas sûr que cela débouche sur une action.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, le Parlement a reporté ce lundi de plus d'un mois une session cruciale qui devait mettre un gouvernement sur les rails, éloignant un peu plus la perspective d'une sortie de crise face à l'offensive des insurgés sunnites. Écoutons Félix Yepassi Zembro.
Pour tenter de doter le pays d'un gouvernement, le Parlement devait se réunir demain pour choisir son président, puis un chef de l'État chargé de désigner le prochain Premier ministre. Mais les députés irakiens n'ont pas réussi à se mettre d'accord et la session a été reportée aux 12 août prochain. Le très contesté chef du gouvernement Nouri al-Maliki, dont le bloc est arrivé en tête des législatives, a assuré vendredi qu'il ne renoncerait jamais à se représenter. D'un autre côté, Massoud Barzani, président du Kurdistan irakien, veut organiser un référendum d'indépendance. Au plan militaire, l'armée ne parvient pas à reprendre un seul pouce de terrain aux insurgés qui ont proclamé un califat. Le leader de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, est d'ailleurs sorti de l'ombre samedi pour appeler les musulmans à faire allégeance.
En Afghanistan, la commission électorale a annoncé que l'ancien ministre des Finances, Ashraf Ghani, a remporté la présidentielle, ce qu'a tout de suite rejeté son rival Abdullah Abdullah, qui était arrivé largement en tête au premier tour. Selon la commission, les résultats préliminaires donnent 56,44% à Ghani et 43,56% à Abdullah. La participation était de 8 millions sur 13,5 millions d'électeurs inscrits. Abdullah Abdullah dit qu'il n'acceptera les résultats que lorsque toutes les allégations de fraude auront été résolues. Son colistier, Haji Mohamed Mouaekek, a averti qu'il y aura un gouvernement parallèle en Afghanistan si les revendications du peuple pour la transparence électorales ne sont pas satisfaites.
Trois des six juifs soupçonnés d'avoir tué un adolescent palestinien ont avoué le crime, c'est ce qu'affirment les enquêteurs israéliens, alors que les responsables tentent de calmer le tumulte qu'a provoqué la mort de Mohamed Abou Khoudaïr. Les Palestiniens estiment qu'il a été tué pour venger le meurtre de trois adolescents israéliens en Cisjordanie. Au moins 9 militants palestiniens ont été tués lors de frappes israéliennes sur la bande de Gaza, sous contrôle du Hamas. Mais le Hamas nie toute responsabilité dans la mort des jeunes Israéliens.
En Ukraine, trois ponts reliant la ville de Slaviansk, reprise samedi par l'armée, et Donetsk, contrôlée par les rebelles, ont été détruits la nuit dernière pendant l'offensive de l'armée contre les séparatistes. Hier, le président ukrainien Petro Porochenko a ordonné le renforcement des opérations militaires contre ce qu'il qualifie de terroristes.
Un puissant séisme a frappé le Guatemala et la partie méridionale du Mexique, causant l'effondrement de dizaines de maisons et des glissements de terrain. Au moins trois morts sont confirmés. Le séisme mesurait 6,9 sur l'échelle de Richter.
Et l'ancien président géorgien Edouard Shevardnadze est mort aujourd'hui à l'âge de 86 ans. Il a joué un rôle crucial dans la fin de la guerre froide, négocié la réunification de l'Allemagne et promu les réformes de Mikhaïl Gorbatchev, dont il était le ministre des Affaires étrangères avant la dissolution de l'URSS. Et voilà pour le journal Vous écoutez Le Monde aujourd'hui de La Voix de l'Amérique en direct du studio 13 à Washington. Avec vous donc, c'est Nathalie Barge et Chérubin Dorsil.
Nous vous l'avons dit dans le journal, le président sénégalais Macky Sall a nommé un nouveau premier ministre après le limogeage d'Aminata Touré, battu lors des élections locales. Mohamed Ben Abdallah Dione est un ami et collaborateur de longue date du président sénégalais. Alors, comment les citoyens, surtout à Dakar, ont-ils réagi à la composition de ce nouveau gouvernement? Notre correspondante Dienaba Sedouba a recueilli quelques opinions.
30 ministres et 3 ministres délégués, c'est la nouvelle composition du gouvernement dirigé par Mohamed Boun Abdallah Dione. Un nouveau gouvernement formé à la suite de la débâcle du pouvoir lors des élections locales du 29 juin dernier. Ousmane Fall, ce commerçant, n'est pas d'avis que le président de la République, qui à travers ce changement a voulu sanctionner les ministres qui ont perdu dans leur localité.
Je suis contre le fait que certaines personnes, que certains ministres soient limogés du fait qu'elles ont perdu dans leur localité.
Trois gouvernements en moins de 3 ans de pouvoir, les Dakarois rencontrés gardent toujours espoir. Selon Saïdou Tal, les hommes de Macky Sall doivent se concentrer sur l'essentiel.
Que ce gouvernement fasse de son mieux pour arriver à concrétiser les rêves des Sénégalais. Et nous avons connu 2 gouvernements, mais jusque-là, rien n'est encore fait. En tout cas, nous avons pas mal d'attentes et d'espoir, tels que l'agriculture, la question ou la problématique des inondations, en banlieue surtout, l'emploi des jeunes, qui est aujourd'hui un clou d'étranglement. On espère quand même si l'espoir s'amenuise de jour en jour, on espère quand même qu'avec ce nouveau gouvernement, quand on a entendu quand même Le Pen parler hier, on s'est dit que voilà un technocrate, quelqu'un qui va se pencher sur les problèmes des Sénégalais.
Djibril Bassène, un jeune qui cherche du travail, lui veut se donner le temps de bien analyser la composition du gouvernement. Et tout comme Djibi, Maïfal est d'avis que la politique doit désormais s'éloigner des sphères gouvernementales.
Donc il va falloir que nous prenions un peu de temps pour les observer et pouvoir les juger ultérieurement.
Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous attendez en tant que jeune?
Qu'il y ait des changements, qu'il s'occupe des vrais problèmes des Sénégalais et ne pas s'occuper des problèmes des politiques politiciennes.
Je crois que c'est un technocrate. Les politiques, c'est au Sénégal. Et tout le temps, on parle de politique. Tout le temps, politique, politicien, politique, politique. Il est le temps qu'on travaille. C'est pas le politique seulement qui gère le Sénégal.
L'équipe du technocrate Mohamed Boul Abdallah Dione a du pain sur la planche. Beaucoup attendent d'énormes réalisations du gouvernement. Mais pour réaliser les projets, surtout du plan Sénégal émergent, et pour renforcer la réforme de l'administration sénégalaise, 5 secrétaires d'État ont été nommés. Dienaba Seydouba, Dakar, pour La Voix de l'Amérique.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau de Sporama sur La Voix de l'Amérique. La Coupe du Monde au Brésil, non-stop, sur votre portable, c'est possible, allez sur voabrésil2014.com. Les matchs en direct, résultats, photos et vidéos de cet événement planétaire, à partager avec vos amis sur Facebook et Twitter. La Coupe du Monde non-stop, c'est sur voabrésil2014.com.
L'épouse du vice-président américain Jill Biden revient aux États-Unis après une semaine en Afrique. Une visite axée sur le besoin d'éducation des filles et une plus grande présence des femmes dans la fonction publique. Des précisions avec Claire Morin-Gibourg.
Jill Biden a fini sa tournée dans trois pays africains par la Sierra Leone, où elle a fait l'éloge du président Ernest Bai Koroma comme un promoteur des droits de la femme. Ce dimanche, pendant une cérémonie, elle a dit être inspirée par les efforts sierra-léonais pour encourager les filles à terminer le lycée, à prévenir les grossesses des adolescentes et les mariages précoces.
The United States is committed to making sure girls and young women...
Les États-Unis sont déterminés à s'assurer que les filles et jeunes femmes aient les moyens dont elles ont besoin pour réussir dans leur communauté. Et la participation des femmes à la force travail et à la prise de décision est un élément important et source de puissance. Madame Biden était accompagnée par le directeur de l'agence USAID, Rajiv Shah, et Catherine Russell, ambassadeur itinérant pour les affaires féminines.
Together, we can do more to ensure that all women have the security.
Ensemble, nous pouvons mieux œuvrer pour assurer que toutes les femmes aient la sécurité, l'opportunité économique qu'elles méritent et leurs besoins familiaux. Le mois dernier, l'USAID a dévoilé une initiative de 231 millions de dollars pour soutenir l'éducation des filles dans plusieurs pays dont le Nigeria et le Soudan du Sud. Pour Rajiv Fa, le patron de cette agence, c'est pour dire au monde qu'une fille éduquée a le pouvoir de sortir sa famille et sa communauté hors de la pauvreté. Avant la Sierra Leone, Jill Biden a fait escale en République démocratique du Congo, où elle a visité l'hôpital Panzi à Bukavu, qui soigne les femmes victimes de violences sexuelles. Elle avait débuté sa tournée par la Zambie, où elle a visité une école et a rencontré les autorités pour discuter de questions relatives aux femmes zambiennes.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, la Coupe du Monde au Brésil à 3 jours de la grande finale. Et cette question, pourquoi l'Afrique n'a-t-elle pas pu encore une fois aller au-delà des quarts? Vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum ou à fr@voanews.com. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Le pape François a reçu ce lundi au Vatican, pour la première fois de son pontificat, un groupe de 6 victimes de prêtres pédophiles. Lors d'une messe célébrée en leur présence, le souverain pontife a dénoncé ce qu'il appelle la complicité inexplicable d'une partie du clergé à l'égard de ces crimes. Pour de plus amples détails, Jacques Aristide s'est entretenu avec le père burkinabé Janvier Marie-Gustave Yameogo, chargé de l'Afrique et du secteur francophone au Conseil pontifical pour les communications sociales du Vatican.
Le désir de guérison entrepris par l'Église depuis le pape Benoît continue. Le pape, en mars, a mis sur pied une commission qui s'occupe de la protection des mineurs, la commission pontificale pour les mineurs. Dans le cadre de la seconde rencontre de cette commission-là, le pape a invité 6 victimes, effectivement, de prêtres pédophiles qui sont venus d'Allemagne, d'Irlande et du Royaume-Uni. Ils ont été accueillis à la résidence où est le pape, à Santa Marta. Ce matin, ils ont célébré la messe ensemble, puisque ce sont des chrétiens. Et après la messe, ils ont déjeuné ensemble. Après, le pape les a reçus individuellement. Ce qui peut ressortir de là, c'est que le pape montre son attention. Durant l'homélie, il a dit « Je demande la grâce de la prière ». La grâce aussi pour l'Église de pleurer devant les fautes qu'elle a commises pour réparer ses fils et ses filles qui ont été trahis. Et les fils et les filles aussi qui ont trahi leur mission, qui ont abusé de personnes innocentes. Donc voilà, c'est dans cette dynamique de ce processus de guérison que le pape a rencontré ces victimes-là.
Une rencontre très attendue donc. Quel est le signal que le pape a voulu envoyer à travers cette rencontre d'après vous?
Comme le pape l'a répété plusieurs fois, ce crime des abus sexuels est intolérable. C'est un sacrilège pour les prêtres. Maintenant, ça s'est passé. Il faut prendre les précautions pour que cela ne se reproduise pas. Et c'est dans ce cadre que le pape, en recevant les victimes, les remercie et les engage à travailler en lien avec cette commission-là, hein, pour mettre en place des procédures pour la transparence dans l'Église d'abord et en vue de protéger les mineurs. Dans la commission participe une ancienne victime de pédophilie. Tolérance zéro, processus de guérison, d'écoute. Le pape lui-même ce matin a écouté les victimes pendant plus de 3 heures individuellement. Processus de prévention, guérison et transparence dans l'Église.
Voilà, c'était le père Janvier Marie-Gustave Yameogo, joint à Rome en Italie.
Et voilà présent le journal de la Coupe du Monde. C'est du lundi au vendredi. Alors Bagassi Courard est venu nous rejoindre en studio pour en parler. Bonjour Bagassi.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir Chirubin, bonsoir à tous.
Bonsoir Bagassi. Alors, les demi-finales de la Coupe du Monde.
Voilà, on y est donc après un week-end bien palpitant. L'affiche de ces demi-finales, c'est Brésil-Allemagne, Chirubin. Et Argentine, Pays-Bas, qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, je pense que le Brésil doit tout faire pour gagner face à l'Allemagne. Ce sera difficile. Santiago Silva, le meilleur défenseur du monde et du Brésil. Et aussi sans l'attaquant vedette Neymar, comme on le sait, qui est hors de la coupe pour blessure.
Voilà. Et il faut noter que samedi à Brasilia, l'Argentine s'est qualifiée en s'imposant 1-0 face à la Belgique. Et les Belges, les Diables Rouges, ont été accueillis à grand fanfare aujourd'hui à Bruxelles.
Et ils ont très bien joué,
ils ont joué
une très bonne Coupe du Monde. Et il faut dire aussi que le Costa Rica a très bien joué face à la Hollande. Malheureusement, les Costa Ricains ont perdu sur tir au but.
Voilà, face aux Pays-Bas, hein, vous rappelez ce remplacement qui va rester dans les annales
du
football.
Un coup de poker de Luis Van Gaal.
À la 120e minute. Hein.
Qui, heureusement, a réussi.
Il a fait rentrer ce géant de 1m93 qui a pu arrêter 2 tirs et qualifier son pays. Mais la France n'a pas pu venir à bout donc de l'Allemagne. La France a été menée dès la 13e minute et n'a pas pu revenir au score jusqu'à la fin. J'ai demandé à Kader Traoré, il est notre confrère de foot226.com, pourquoi est-ce que la France n'a pas pu gagner face à l'Allemagne?
Quand on a en face de soi une équipe qui se regroupe très facilement comme l'Allemagne, c'est difficile de déployer le jeu. Les Français ont été pris dans leur propre piège parce que le jeu français est beaucoup plus basé sur le milieu de terrain avec Pogba, Matuidi, Johan Cabaye. Mais lorsque les Allemands ont pu museler ce trio de milieu de terrain-là, les Français ne pouvaient plus dérouler leur jeu.
Et c'est peut-être là qu'on regrette l'absence de Ribéry qui pouvait à tout moment changer le rythme du jeu.
Exactement. Dans une telle configuration, il faut un joueur qui puisse amener de la vivacité, qui puisse s'imposer balle au pied et qui peut en fait amener tout le bloc équipe à monter à l'offensive et se créer des occasions de but.
Voilà, c'était Kader Traoré de foot226.com. Il a été joint à Ouagadougou et sur le pays hôte, le Brésil, quant à lui, a battu donc la vaillante équipe de Colombie. 2-1, c'était vendredi. Et le Brésil, comme on le disait, affronte demain la Mannschaft, l'Allemagne donc. Et pour une place en finale, ça va être la finale avant la lettre.
Et la victoire sur la bande à Rodriguez, c'est une victoire très coûteuse, évidemment, pour le Brésil, comme nous l'avons dit, parce que nous avons perdu, je dis nous parce que je suis fan du Brésil, nous avons perdu Thiago Silva, le défenseur, et malheureusement,
Neymar Junior. Qui est blessé, il y a une vertèbre qui est cassée, semble-t-il, et qui est donc au forfait pour le reste du mondial. Brésil-Allemagne, c'est l'objet de ce soir, donc du coup de sifflet de Jules Valentin Goué.
We celebrate the best African football. No,
Bonjour, Brésil-Allemagne, un choc intemporel de titans, mais aussi une rencontre inhabituelle en Coupe du Monde. Certes, les moins distraits nous rappelleront que le seul match référence entre ces deux équipes s'est déroulé lors de la finale du Mondial 2002, qui fut un coup de maître pour le Brésil, du même Scolari, par la grâce de deux joueurs monuments de l'époque, Rivaldo et Ronaldo, bourreaux de l'immense gardien germanique Oliver Kahn. Il s'agit donc actuellement d'un match de revanche pour une Allemagne aujourd'hui favorite. Une Allemagne qui peut toujours compter dans ses buts sur un ange gardien de la même trempe nommé Neuer. Dernier rempart de la formation la plus équilibrée, la plus achevée et la plus impressionnante de la compétition. Le Brésil a certes laissé sur sa route son brillant capitaine Sopper Thiago Silva et surtout sa pépite de l'attaque, Neymar Junior, victime d'une agression fatale contre la Colombie. Alors, a-t-il encore une chance d'effacer la déconvenue de 1950? Sûrement oui, puisque tout le monde le sait, une vedette brésilienne en cache toujours une autre, comme ce fut le cas en 1962 lorsque le roi Pelé, blessé dès le deuxième match, fut brillamment suppléé par une étoile filante nommée Amarildo, avec le succès final que l'on sait. La machine allemande doit donc s'attendre à un match de feu, même si les supporters inconditionnels de la Mannschaft continuent à marteler « L'Allemagne, c'est l'Allemagne ». À bientôt.
Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor.
Voilà, la Coupe du Monde se poursuit pour encore une semaine au Brésil jusqu'à dimanche, hein, Chérubin. Et tout au long du tournoi, on a peu ou pas du tout vu la majorité de la population à la télévision. Les Noirs, les Indiens ou tous les non-blancs dans ce pays majoritairement métis. Le racisme est une réalité quotidienne, mais dissimulée au pays Oliverde. L'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique, Nicolas Pino, s'est rendu à Salvador de Bahia, ville symbole des racines africaines du Brésil.
Sur la côte atlantique, Salvador regarde au loin les côtes africaines. L'esclavage a été aboli au Brésil en 1888, mais ici, plus qu'ailleurs, les liens avec le continent sont une évidence. Les afro-descendants représentent plus de 80% de la population bahianaise. Au Brésil, plus de 50% de la population est métissée. Pourtant, à la télévision et à l'étranger, le Brésil se donne une image blanche. Le racisme est partout. Et invisible à la fois, il est dissimulé, comme le disent les Brésiliens. Écoutons Selena Fonseca, anthropologue.
Elle est une représentation formelle de la démocratie au Brésil. Nous ne sommes pas là. Les Noirs, les Indiens, les Métis en général. Au Brésil, il y a une apartheid qui n'a pas dit son nom. Parce que nous sommes des serviteurs des Blancs et nous sommes la majorité écrasante de la population.
La présidente Dilma Rousseff avait affirmé vouloir une Coupe du Monde sans racisme. Pourtant, en dehors des stades, la situation des Noirs brésiliens est tout autre. Hélène Amazonas est assistante sociale. Elle décrit les humiliations quotidiennes.
Les restaurants, les magasins où vous allez, les supermarchés, les agents de sécurité vous suivent. C'est au quotidien.
Les adolescents noirs sont les premières victimes de cette situation. Selon Sueli Santos Souza du mouvement Noir Unifié, au Brésil, 9 jeunes assassinés sur 10 entre 12 et 23 ans sont noirs. Dans le domaine de l'éducation, les choses changent un peu grâce aux quotas. Avant leur instauration, les noirs ne représentaient qu'un 1% des étudiants à l'université. Ils sont aujourd'hui 11%. Sueli Santos Souza travaille surtout pour changer le contenu des enseignements.
Aujourd'hui, au Brésil, par exemple, c'est obligatoire d'apprendre l'histoire de l'Afrique et des descendants africains et l'histoire des Indiens du Brésil. Et ça a été une des réalisations du mouvement Noir Unifié.
La classe politique brésilienne reste conservatrice et la représentation des minorités est un défi. Le musicien Gilberto Gil fut ministre de la Culture de 2003 à 2008. Quant à Joaquim Barbosa, il vient de quitter la Cour suprême brésilienne et pourrait se lancer en politique. Des exemples encore trop peu nombreux. La lutte sera longue et désespère Anna, cette Bayanaise de 67 ans, partage sa vie entre le Brésil et la France.
Le problème, c'est que, par exemple, le racisme existe partout. Moi, j'accepte plutôt le racisme français parce que je suis étrangère, je suis noire dans le pays des Blancs. Mais ici, chez moi, c'est très dur. Mais je ne suis pas chez moi.
Le Brésil, ce pays continent, a encore un long chemin avant de parvenir à l'égalité entre ses citoyens. Nicolas Pino, Salvador, La Voix de l'Amérique.
Voilà, merci à Nicolas Pino. Deux informations très rapidement. Vahid Halilovic, l'entraîneur de l'Algérie, s'en va. Et la Côte d'Ivoire pourrait prendre Hervé Renard, l'ancien sélectionneur de la Zambie, comme son sélectionneur pour l'instant. L'information n'est pas encore confirmée. C'est tout donc, Chérubin, pour ce journal de la Coupe du Monde.
Merci, Bagassi Koura.
Destroyer, baby, yeah.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Le Monde aujourd'hui a été mis en onde par Yemi Adjemi à la console technique. Nous avions Bill Barber. Nous attendons vos messages sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Très bonne soirée, au revoir.